I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team avec Martin Mosnier. Aujourd'hui, on va débriefer le tirage au sort de la Coupe du Monde, émission un peu spéciale, un peu bousculée, puisqu'on a fait un live de plus de 3 heures. On aime parler, mais c'était quand même grand et long.
C'est toi qui aimes parler, Maxime.
Chez Rivenzi, voilà, exactement. Et ben, on s'est dit que quand même, un jour de tirage au sort, il était compliqué de ne pas vous offrir un FC Stream Team, puisqu'on suit les Bleus quand même à l'année. Ça aurait été bizarre. Cela dit, si vous voulez voir dans les largeurs ce qu'on a fait chez Rivenzi, vous allez soit sur Eurosport.fr voir le meilleur des vidéos, soit évidemment, vous allez sur sa chaîne Twitch, et vous aurez toute l'analyse du tirage au sort, de l'avant dont on parle beaucoup du Qatar évidemment, de la situation du Qatar, le tirage évidemment, l'après, avec le résultat qui a été donné aux Bleus et qui est plutôt pas mal, on va dire. On est plutôt bien tombé pour les Bleus de Didier Deschamps, on va rappeler les groupes. Mm. La France est avec...
Ah, t'avais allé avec qui, Maxime? Avec la Tunisie, ouais. Avec le Danemark et avec Australie, ouais. Pérou ou Émirats Arabes Unis.
Exactement.
A priori, ça devrait se jouer entre l'Australie et le Pérou. Donc, on retrouverait Australie ou Pérou, Danemark, deux équipes qui étaient déjà dans le groupe de la France en 2018, ce qui nous laisse augurer de bien belles choses. Surtout que l'équipe de France croiserait en huitième de finale avec le groupe de l'Argentine. Argentine ou Mexique ou Pologne, en gros, voilà.
Et Arabie Saoudite en quatrième, a priori,
Saoudite, mais
ça,
a priori
devrait passer.
Ça ne devrait pas passer, on ne sait jamais. Tout ça pour dire que cette Coupe du Monde 2022, elle a des petites odeurs de Coupe du Monde 2018. Est-ce que ça ira au bout pour autant? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'équipe de France est la tête de série la plus épargnée par ce tirage au sort, avec aussi l'Angleterre, qui est notamment... avec les États-Unis qui étaient peut-être la plus petite équipe du chapeau 2. Bref, la route est relativement dégagée, en tout cas pour le premier tour.
Bah, au moins, elle est bien balisée. Alors, on ne connaît pas encore le premier adversaire, comme tu l'as dit, puisque ce sera soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, on ne les a jamais joués du tout. Et le Pérou ou l'Australie, évidemment, c'est des souvenirs de Coupe du Monde 2018.
Ça rappelle des bons souvenirs, mais des souvenirs douloureux quand même, parce que rien n'avait été facile.
Ouais, rien n'était facile, mais ça avait déjà donné... Alors, là, j'allais dire le chemin, c'est-à-dire que le premier match, il est raté contre l'Australie, mais Didier Deschamps se rend compte que son attaque à 3, Mbappé, Dembélé, Griezmann, ne va pas forcément fonctionner. C'est quand Giroud rentre, comme par hasard, que ça va mieux. Le Pérou, c'est un match où, moi, je me souviendrai toujours de l'après-match, où les joueurs viennent dire en zone mix, « Non, non, on a maîtrisé, on a fait ce qu'on a voulu », alors qu'on avait l'impression que ça avait été compliqué. Et finalement, c'était l'ADN de cette équipe. Et c'est une de ces deux équipes, potentiellement, que l'équipe de France jouera en premier. Alors, c'est un peu dommage de ne pas connaître le calendrier complet, mais c'est ainsi. Il y a trois équipes qu'on ne connaît pas. L'équipe européenne, celle qui est dans le groupe de l'Angleterre, parce qu'évidemment, la guerre en Ukraine, ça, c'est, j'allais dire, c'est une bonne excuse d'avoir du retard. Mais les deux autres, ce sont deux barrages. Donc, on connaît à peu près le programme. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que ce groupe-là, comme tu l'as dit, il ressemble à 2018. Et il est quand même relativement clément. Il y avait, faut rappeler qu'il y avait quand même l'Allemagne dans le chapeau 2.
Ouais, ou le Sénégal dans le chapeau 3, donc, ou la Serbie aussi dans le chapeau 3. Enfin bref, c'était quand même des équipes qui, sur le papier en tout cas, donc c'est toujours pareil, analyser un tirage au sort, surtout 7 mois avant le début de la compétition, c'est toujours compliqué, mais il y a des bons et des mauvais tirages. Celui-ci est nettement bon, il n'y a pas trop de mystère là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'était important pour moi, pour l'équipe de France, de démarrer tranquillement. Alors, ce sera peut-être pas tranquille, mais au moins aujourd'hui, en tout cas au 1er avril, ça a l'air plutôt tranquille. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de préparation, parce qu'il vaut mieux ne pas se cogner tout de suite l'Allemagne, le Sénégal ou des grosses équipes. Pour moi, il faudra, pour les grosses équipes, je pense qu'il faudra une montée en puissance qui ne peut pas être faite pendant la préparation puisqu'il n'y aura pas de préparation. Donc, moi, je pense que c'est, ça va être une Coupe du Monde où les niveaux vont se rapprocher, vont se resserrer. Ouais. Parce que comme il n'y a pas de préparation, je pense que les petites équipes, il y a même certaines équipes qui auront des préparations parce que les championnats nationaux qui n'auront pas lieu à ce moment-là. Mais je pense que voilà, ça va être beaucoup plus... beaucoup plus nivelé. Et c'est bien, du coup, que l'équipe de France démarre un peu plus tranquillement pour... Voilà, après, dérouler, si tout se passe bien, alors, à partir des huitièmes.
Elle démarre un peu plus tranquillement, mais elle démarre très tôt dans cette compétition. C'est le groupe C, il me semble, le groupe D, pardon. D. Et c'est un groupe qui joue dès le deuxième jour. Parce que, alors, il faut savoir une chose, c'est que va être une Coupe du Monde à 32, mais c'est quasiment la plus, c'est même la plus resserrée de l'histoire. Elle commence le 21 novembre, elle finit le 18 décembre. Le 21 novembre, c'est un lundi. Déjà, commencer une Coupe du Monde un lundi, ça fait bizarre. Normalement, c'est un vendredi. Donc, il y aura les matchs d'ouverture. Il va y avoir beaucoup de matchs par jour. Et notamment, dès le mardi, l'équipe de France. Ce qui veut dire que si les clubs et si rien ne change, et a priori, rien ne changera, Didier Deschamps aura ses joueurs à Clairefontaine ou ailleurs le lundi précédent. Il partira au Qatar à peu près entre le mardi ou le mercredi, puisque les joueurs doivent être sur place 5 jours avant. Et en gros, bah, je pense... Sauf surprise que l'équipe de France ne jouera pas de match officiel ou du moins amical de préparation avant. Donc ça va être une situation un peu particulière et ça va être, dès le début, il va falloir être dans le ton. Cela dit, elle n'avait pas été forcément dans le ton en 2018 et ça s'était pas si mal terminé. Voilà. Moi, il y a une question que je me pose, Martin, enfin, quand on compare les groupes, ils se ressemblent beaucoup. Et finalement, c'est de se dire, est-ce que par rapport à 2018, le groupe avec les mêmes équipes est plus facile ou plus difficile? Moi, j'ai tendance à dire qu'il est peut-être un peu plus difficile sur les hauteurs parce qu'il y a évidemment l'équipe du Danemark qui a fait de belles choses à l'Euro.
Ouais, qui n'est pas la même. Après, le problème, c'est qu'il y a
il y en a un
qu'on ne connaît pas. Le Pérou, a priori, c'est peut-être un peu moins bon qu'en 2018. L'Australie, on va être honnête. Hein. Je ne sais pas si tu as vu des matchs de l'Australie.
Non,
je n'ai
pas
vu de
match d'Australie. En revanche, que j'ai...
La Tunisie, c'est... Ouais. La Tunisie, c'est faiblard. La Tunisie, c'est des caseries, c'est des Naïm City. On connaît assez peu de joueurs. Les cadres vieillissent, la CAN n'était pas bonne, donc ça reste une équipe un peu moins, enfin qui est troisième chapeau, mais qui aurait pu être dans le quatrième.
Et c'est une équipe qu'on jouera en dernier. Donc
d'ailleurs, c'est la dernière équipe du chapeau 3 au classement FIFA, la Tunisie. Ouais. Donc ça dit quand même quelque chose aussi.
Et c'est l'équipe que l'équipe de France jouera en tout dernier, c'est-à-dire le dernier match.
Mais c'est sympa.
C'est une super affiche pour le coup, parce que c'est un adversaire. Alors justement, moi je vais parler de... Moi, ce qui m'embête avec ce groupe-là, alors ça, c'est vraiment un goût personnel, c'est que j'ai l'impression de revoir 2018 et l'idée, c'est de voir autre chose quand même. La Tunisie, l'équipe de France, n'a plus joué depuis 2010 et la préparation du mondial sud-africain. Il y avait eu un partout en Tunisie et c'est déjà là-bas que ça commençait à... Enfin, ça avait déjà commencé bien avant à dérailler avec Domenech. Mais là, déjà, il y a les premiers signes à Vancouver. Et puis après, il y avait eu le match de La Réunion, souvenez-vous, la défaite face à la Chine et puis évidemment le crash sud-africain. Voilà, donc c'est bien d'avoir un adversaire qui diffère parce qu'après, c'est toujours les mêmes histoires. Ce qui est drôle avec le Danemark, c'est que c'est une équipe que l'équipe de France rencontre, mais régulièrement dans les grandes compétitions.
Tous les ans.
Et pour faire simple, soit l'équipe de France joue le Danemark et va au bout de la compétition, c'est arrivé 4 fois. Chaque fois que le Danemark a été sur la route de l'équipe de France, c'est allé au bout dans les grandes compétitions. Et 2 autres fois, ça s'est hyper, hyper, hyper mal passé et il y avait toujours le Danemark. Et ce qui est marrant, là, on regardait tout à l'heure, c'est que les Français avaient joué le Danemark à Moscou dans le stade de la finale et le Danemark, ce sera à Losail dans le stade de la finale. Alors, j'y vois aucun signe, mais j'aime bien me raccrocher ces petits trucs-là.
Il y a trop de signes, ça ira au bout. Après, sur les huitièmes de finale, c'est ce qu'on disait, ça croise avec... ou le Mexique, ou l'Arabie Saoudite, l'Argentine, ou la Pologne.
La Pologne.
Donc, a priori, là aussi, le huitième de finale, enfin, je veux dire, on n'est pas avec l'Espagne et l'Allemagne.
Non, mais
ça croise pas avec l'Espagne et l'Allemagne.
C'est piégeux.
C'est piégeux, mais disons que jusqu'en quart, au moins, tu seras normalement favori.
Normalement.
Oui. Normalement, assez nettement même favori. Même l'équipe d'Argentine qui, oui, s'en est sortie sans trop de mal de sa zone âme sud. Voilà, Di Maria, mais c'est quand même une équipe aussi qui vieillit.
Oui, qui vieillit aussi.
Qui vieillit et l'équipe de France a cette chance-là que n'ont pas toutes les sélections. C'est qu'il y a un mélange des générations avec une nouvelle génération qui pousse. Évidemment, qui est incarnée par Kylian Mbappé qui, lui, fait plus que pousser. Hein, lui, il règne. Mais voilà, je pense que cette équipe de France, elle a des arguments. Premier tour, huitième de finale. Après, quart, c'est compliqué de se projeter jusqu'au quart parce qu'il peut se passer. Voilà. Mais déjà, jusqu'au quart, ce serait sympa.
Ouais, et ce qui serait étrange aussi, c'est de jouer l'Argentine en huitième et de vraiment avoir l'impression qu'on est en Russie il y a 4 ans.
Alors, qui serait le Benjamin Pavard de 2022 ? Jonathan Clauss ?
Jonathan Clauss, voilà, tout simplement.
La volée de Jonathan Clauss.
Voilà. Mais après, dans ce groupe-là, alors il y a 3 équipes qui se détachent un peu plus pour la qualif parce que l'Arabie Saoudite, a priori, ça ne passera pas. L'Arabie Saoudite a passé une fois les huitièmes, c'était en 94. Voilà, depuis, c'en est à chaque fois très loin. La Pologne, je les mets un peu en dessous. Il reste le Mexique. Alors, le Mexique, c'est toujours l'inconnu de la maison. C'est l'équipe qui passe toujours.
Ils font une mauvaise campagne éliminatoire.
Voilà. Mais c'est une équipe qui a l'habitude de ça et qui sait comment passer un premier tour, qui sait le gérer. Donc, ça peut être potentiellement quand même un huitième de finale un peu, je dirais pas difficile, mais au moins piégeux par le caractère des adversaires. Parce que jouer la Pologne en huitième, c'est une équipe qui est habituée maintenant à rejouer des grands rendez-vous, mais pas forcément à passer le premier tour de Coupe du Monde. Voilà. En revanche, Mexique et Argentine, ça passe à chaque fois, même si c'est tombé en huitième la dernière fois, les deux équipes. Ça reste des équipes quand même qui peuvent être très ennuyeuses à jouer, mais en effet, oui. L'équipe de France fait partie des grands favoris de cette compétition, malgré l'Euro, malgré tout ce qui s'est passé, parce que, tu l'as dit, Mbappé a pris une ampleur dingue.
Des mesures.
C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et puis, si jamais ça rigole, si Didier Deschamps, parce que pour moi, la clé, elle est là, finalement, c'est dans la construction, non pas des hommes presque, enfin, il y aura besoin des hommes, mais du système, voilà. Ce 3-4-3, il marche. Il est encore perfectible, il n'est pas parfait. Et pour gagner une Coupe du Monde, il faut quand même avoir un système. Je n'ai pas souvenir d'équipes qui ont un système.
Brinque-ballant,
voilà. Regardez 2018, pardon. C'est le fameux ailier gauche, enfin milieu gauche ou ailier gauche, comme vous voulez, asymétrique, avec Matuidi. On en pense ce qu'on veut, mais c'était réglé comme du papier à musique. Et Didier Deschamps aura 6 matchs pour régler tout ça, dont, hasard du calendrier, la Ligue des Nations et évidemment France-Danemark, qu'on va jouer. 2 fois les Danois avant la Coupe du Monde. Et ça me fait un peu regretter aussi parce que 3 fois le Danemark en 6 mois, bon.
Alors, quel match t'as envie de voir, Maxime, ce premier tour ? Alors, c'est un premier tour où les forces ont été bien réparties, je trouve.
Ouais.
Moi, je ne vais pas être original. Disons qu'il y a une seule vraie grosse affiche entre deux anciens champions du monde et deux équipes qui, malgré tout, font sinon figure de favoris, au moins qu'on place naturellement en haut. Ah, c'est l'Allemagne et l'Espagne, deux équipes en reconstruction. L'Espagne qui avait fait un super euro, l'Allemagne qui reste sur un mondial cataclysmique. Mais deux équipes qui, finalement, on parlait de génération qui pousse au niveau de la France. Là, on en a. On a des vraies individualités aussi qui brillent dans les plus grands clubs européens. C'est la grosse affiche et je dirais presque la seule grosse affiche de ce niveau-là dans ce premier tour.
C'est l'énorme affiche du premier tour. Ce sera le deuxième match des deux équipes. En plus, il y aura de l'enjeu.
Oui, il y aura de l'enjeu. Et juste pour terminer, excuse-moi, l'autre grosse tête de série du deuxième chapeau, l'autre grosse équipe, c'était les Pays-Bas. Mais fatalement, comme ils sont dans le groupe du Qatar, Qatar-Pays-Bas, on ne peut pas estimer que c'est une affiche.
Ce n'est pas une affiche, mais j'ai bien envie de voir le Pays-Bas-Sénégal. Oui. Enfin, le premier match sympa entre les Pays-Bas, évidemment, qui font leur retour en Coupe du Monde, et le Sénégal, voilà. C'est un match assez intriguant entre ces deux puissances-là. Évidemment, tu l'as dit, Espagne-Allemagne, parce que Espagne-Allemagne, c'est pas forcément un classique en Coupe du Monde. Pour le coup, c'était la demi-finale 2010. Mais on peut pas dire que les deux équipes aient été au top niveau au même moment, à part cette fois-là.
L'Argentine-Mexique aura un intérêt aussi pour les Bleus.
Alors,
il n'est pas dit que ce soit ces deux équipes qui sortent, mais en tout cas... Ouais. Peut-être que le perdant de ce match-là a quand même quelques chances de rencontrer l'équipe de France. Donc ça, d'un strict point de vue franco-français, il y a un vrai intérêt.
Il y en a un autre qui me plaît bien. Alors, c'est plus parce que on en a parlé pendant le live et je sens bien, bien, bien le Brésil. Moi qui vois toujours l'Allemagne gagner, cette fois, je vois le Brésil gagner. C'est Brésil-Suisse. C'est un match qui m'intrigue, parce que les Suisses, parce que qu'ils ont fait à l'Euro, et j'ai envie de les voir face à cette équipe du Brésil, et surtout envie de voir cette équipe du Brésil. Donc voilà, je dirais que c'est les 3 matchs qui me plaisent le plus, on va dire, sur le papier, évidemment, équipe de France. Et il y a un groupe qui me plaît bien, moi. C'est pas le plus difficile, mais je suis pas sûr qu'il soit complètement ouvert aussi. Mais c'est le groupe de la Belgique, pour le coup.
Ouais, alors on rappelle Belgique, Canada, Maroc, Croatie.
Ouais, j'ai l'impression que ça peut partir un peu dans tous les sens dans ce groupe-là.
Belgique est quand même au-dessus.
Ouais, au-dessus, mais alors pareil, moi le premier à dire que de voir les Belges gagner en 2016, voir les Belges gagner en 2018, bah 2020, je pensais que c'était encore possible. J'ai l'impression que ça commence à arriver tard. Derrière, il y a du renouvellement qui est difficile en défense. Hasard, bon bah voilà, enfin ils ont fait quasiment sans lui pour ces derniers temps. Donc,
après, t'as un gardien hors norme, voilà. Un super attaquant.
Et ça sera intéressant de les voir avec les vice-champions du monde qui ont perdu de leur superbe. Mais c'est quand même un groupe intéressant. Le Canada qui est de retour.
Avec des joueurs qu'on connaît.
David, avec des joueurs qu'on connaît, voilà, exactement.
Alphonso Davies,
voilà. Alors, c'est marrant parce que, alors, je le répète, on faisait un live tout à l'heure avec Rivenzi sur le tirage au sort. Et il y a une grosse hype justement autour du Canada. Voilà. Oui. Alors, ça va être l'effet Davis, l'effet David, je ne sais pas. Oui. Et en tout cas, parce qu'il y a des individualités. Voilà,
parce que c'est une équipe qu'on connaît très peu, qui n'a pas joué la Coupe du Monde depuis 1988.
6.
6, oui, il n'y avait pas de Coupe du Monde en 88. Donc, voilà. Mais voilà, c'est une curiosité. Et en plus, ils organiseront la Coupe du Monde dans 4 ans. Donc c'est vrai que ce sera une des grosses curiosités de ce premier tour, et on espère peut-être même du tableau final.
Ouais, et alors il y en a un dernier qui m'intrigue aussi. C'est pas tellement le côté sportif, mais le Iran-États-Unis disputé au Qatar. On avait eu Iran-États-Unis, les Iraniens avaient gagné lors de la Coupe du Monde 98, c'était à Lyon. C'était sûrement un contexte un peu différent. Là, je demande à voir, ça va être un peu particulier comme match, mais il me semble que c'est aussi un dernier match de poule. Donc potentiellement sans enjeu, je crois qu'à Lyon c'était exactement le cas aussi. Mais c'est pareil, c'est les facéties, non pas les facéties du tirage au sort, mais il y a un peu ça quand même.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Peut-être si tu devais ressortir une surprise, et peut-être une équipe qui va te...
Me subjuguer.
Ouais. Bah, t'as parlé du Canada peut-être?
Ouais, mais je crois pas trop au Canada. Enfin, vu le groupe, je suis pas certain que le Canada fasse grand-chose.
Moi, je pense que je dirais quand même le Sénégal, Maxime.
Ah ben non, mais normal.
Ah, surprise générale. Moi, je vous le dis, hein, je l'ai déjà dit, je me suis attiré les colibés, mais moi, je suis un homme qui aime prendre des risques, parce que Maxime va te dire, bon, la finale, ce sera Brésil-France, okay,
non,
la demi-finale, ce sera les Belgique-France.
Je pense que la France, c'est la finale.
Peut-être Brésil-Allemagne. Non, les gars. Moi, je vous lis la grosse cote. Je vous le dis, ce sera le Sénégal. Je vois une équipe africaine en demi-finale. Je vois le Sénégal.
Ben moi.
Et ils ont du bol parce qu'ils tombent dans le groupe du Qatar.
Ouais, voilà, le Qatar, donc, c'est le groupe très ouvert, c'est le groupe de l'espoir.
Exactement, c'est le groupe de l'espoir. Alors, ils ont quand même les Pays-Bas. Hein. Donc,
ouais, mais bon, il reste une deuxième place et on peut imaginer que les champions d'Afrique auront la place pour passer. Et moi, ma surprise, c'est que je pense qu'il n'y en aura pas, tout simplement. Non mais j'ai.
C'est pas une surprise.
Il y a toujours une surprise. Ouais. Comme tu le dis.
Surprise, c'est qu'il n'y en a pas. La fausse surprise. Oh.
Si. Ma surprise, c'est que le Brésil va gagner la Coupe du Monde 20 ans après.
Oh, bah ça. Alors là, c'est un gros scandale.
Non, tu veux dire
la petite équipe qui a 5 étoiles là.
J'entends. Non, mais je mets jamais.
Tu veux dire l'équipe de Neymar, de Vinicius.
Dans toute ma carrière, toute ma vie, j'ai jamais mis le Brésil gagnant.
Audacieux.
Ce qui est une erreur.
Donc c'est peut-être une surprise à l'échelle de ta vie, mais à l'échelle de la Coupe du Monde et du football. Le Brésil vainqueur, c'est comme si tu disais la France, c'est pas...
Ah non, pas aujourd'hui.
Ah bah, les bookmakers mettent le Brésil devant la France. Ça signifie quelque chose.
Tu mets qui, toi, devant?
Ils sont numéro 1 au classement FIFA. Ils n'ont pas perdu...
Alors, classement FIFA, tu m'en parles quand ça t'arrange.
Bah non, mais ça veut dire quelque chose.
Ouais, et la France n'est pas première du classement FIFA.
Si tu m'avais dit, peut-être, tu vois, à la limite, les Pays-Bas, champions du monde...
Non, mais les Pays-Bas ne sont pas champions du monde.
À la limite, ou... Même l'Allemagne, hein. c'est un peu plus.
Là je peux te le. Bon, à l'Allemagne, alors allons-y.
Les convictions de Maxime.
Justement, je me suis retenu de parler
l'Allemagne,
de l'Allemagne.
L'Allemagne a perdu contre la Macédoine du Nord. L'Allemagne.
Mais ça fait combien de temps qu'ils ont perdu contre la Macédoine du Nord?
Bah, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était pendant les qualifs. L'Allemagne n'a pas franchi le premier tour de la dernière Coupe du Monde. Le Brésil est allé jusqu'en quart. Le Brésil n'a pas perdu un match de qualification, pas une défaite. Ils font, je crois, que la meilleure campagne de qualification de leur histoire. Ils ont des stars à peu près à tous les postes.
Ouais.
Donc que tu me dises que.
Moi, je suis content. C'est vrai que tu es d'accord avec moi.
Non, parce que moi, je mets plutôt
France. Voilà.
Mais oui, le Brésil, je les vois aller très loin, évidemment. Évidemment, je les vois aller très loin. Mais je les vois pas aller en dessous des.
Non, mais très sérieusement, pour revenir à cette histoire de surprise.
Voilà. Vas-y.
Je trouve déjà qu'on est très loin de la Coupe du Monde.
Je sais.
Quelle est dans.
J'ai compris. Non, mais j'ai compris.
Non.
Parce que Maxime. On va vous expliquer aux gens. à l'Euro, il s'était mouillé comme jamais.
Ah oui, la Turquie, oh non, voilà. Mais je l'assume.
Il s'était mouillé comme jamais. Et que la Turquie, ça va aller loin. Et que la Turquie, ils sont difficiles à bouger. Et que vous avez vu les Turcs comme ils sont forts. Ouais, les Turcs, ils ont fait 3 matchs, ils sont rentrés chez eux. On n'a plus entendu, jamais entendu parler. Voilà. Donc, chat.
Mais moi,
et je crains l'eau froide.
Moi, je suis pas. Non, mais moi, je suis journaliste, je suis pas pour un sneaker. Je suis pas Omar Sharif. Voilà, donc moi, je dis. Et surtout. Je trouve qu'on est vraiment trop loin de la compétition.
Bien sûr, mais, pour, oui, regarde, mais c'est le jeu. Quand tu vois le tirage de sort.
Regarde 2018, en mars, l'Espagne en met 6 à l'Argentine. Tu dis, oh, l'Espagne, incroyable, ça va y aller. Résultat, bah, le coach fait virer Lopetegui, il me semble, à 2 jours de la Coupe du Monde. C'est tous les trucs imprévisibles. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est justement qu'on a des groupes comme ça qui sont très homogènes, mais d'un autre côté, avec des têtes qui ressortent assez facilement. Là.
Bah oui, du coup.
Ouais. C'est ça qui est compliqué, c'est que le fameux groupe de la mort de l'Angleterre, Costa Rica, machin.
Toutes les têtes de série ne sortiront pas.
Toutes les têtes de. Ah si, toutes les têtes de série sortiront. Je parle Qatar.
Il y en aura. Voilà, bah déjà. Mais, ah ouais, non, mais bon, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres.
Ah non, mais sortir dans les deux. On peut, bah regardons.
Bah
tu as l'Angleterre dans le 2. Ouais. Ça va sortir.
Moi, je dis que l'Argentine. L'Argentine potentiellement.
Ça, c'est un vrai choix. Ça.
Ouais, l'Argentine potentiellement. Bah, tu vois, Pologne mixte. Bon, la Pologne, c'est. Moi, je pense c'est que pas terrible. Mais. Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon. C'est possible aussi. C'est possible aussi.
Ah, mais qui sort qui L'Espagne
Que le Canada sorte la Croatie. Bah, c'est pas délirant. Que la Serbie sorte la Suisse. Que la Serbie sorte le. Ah non, mais
ah,
on
non,
parle
mais on bah oui, pas du tout. Non,
si, bah l'Espagne, pourquoi pas l'Espagne ou l'Argentine. Moi, je dis l'Espagne ou l'Argentine. Alors, potentiellement.
Oui, attends. Oui, les plus en danger, oui. Je veux dire, alors non, je mettrais l'Argentine le plus en danger. Ouais. L'Espagne, je pense quand même qu'il y a de la marge sur ce qu'il y a derrière. Évidemment, un deuxième match perdu contre l'Allemagne n'arrangerait pas leurs affaires. Je pense qu'il y a quand même une petite marge. Mais en effet, oui, si on a une à choisir,
un peu chaud, un gardien un peu chaud.
Non, mais si on a une à choisir, évidemment, je pense que c'est l'Argentine qui a le moins de garantie aujourd'hui et qui laisse craindre, on va dire, le pire. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas la France.
Exactement. Qui a un chemin dégagé. On a fait le tour, hein, Maxime.
Ouais, alors c'était un peu décousu, hein. On s'excuse.
Non, c'était très
bien. Il est tard en plus parce que.
Non, c'était très bien. Non, il n'y a pas à s'excuser, c'était très bien.
C'était décousu.
Merci à Adrien à la réalisation. Merci à Maxime.
Merci Martin.
Merci Martin, effectivement, moi-même. Et on se donne rendez-vous. Le Qatar, c'est loin, hein, mais on a quand même hâte d'y être.
Ouais.
Voilà. Mais on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team en bonnet du forme avec les 3 sujets, etc. On ne sait pas de quoi on parlera, mais ça sera très bien.
Voilà. Comme d'habitude.
Voilà, et puis rendez-vous tout le week-end, toute la semaine et tous les jours sur eurosport.fr.
Salut.
Ah, le salut de Maxime, là, c'est... On sent qu'il est tard. Salut. Ciao, bye bye, bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.